On doit tout sa vie à quelqu'un et souvent à plusieurs personnes.
Moi, un rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, c'est votre nouveau rendez-vous, le magazine Coup Double, premier coup, 18h en podcast, avant le deuxième coup, passage à l'antenne, 22h minuit, c'est vrai que deux coups, ça fait mal. La soirée énervée est en deux temps et à deux vitesses, première partie, l'actualité et la musique live, deuxième heure, les archives extraordinaires de France Inter. Et l'actu ce soir, c'est quelle mémoire pour la Shoah, quelle transmission contre l'oubli quand inexorablement les témoins, les survivants disparaissent, comment passer du travail de mémoire au travail d'histoire sur l'Holocauste, comment témoigner et comment l'enseigner alors que plusieurs sondages nous apprennent qu'une personne sur dix n'a pas entendu parler du génocide des Juifs. Benoît Lagane.
Oui, et pour en parler, on reçoit autour de la table Ludovic Canté qui signe le documentaire « J'aimerais qu'il reste quelque chose » qui sort en salle donc demain et qui suit les bénévoles du Mémorial de la Shoah. Paul Schaffer, écrivain, rescapé d'Auschwitz et président d'honneur du Comité français pour Yad Vashem. Cécile Fontaine, documentaliste au Mémorial de la Shoah et membre de l'équipe de la collecte donc du Mémorial. Pierre Birnbaum, historien et auteur de La Leçon de Vichy qui vient de paraître aux éditions Seuil, et Annette Vieviorka, historienne, autrice entre autres de Ils étaient juifs, résistants communistes, réédité notamment il y a quelques temps.
Sur le plan musical, ce soir Marion Guilbeault pour finir cette première heure.
On a rendez-vous avec un pionnier d'un jazz contemporain hybride, il s'appelle Jidru, il est flûtiste et il sera en live à la fin de l'émission.
Et puis autre temps, autre parole, ce sera le NRV la suite. Alors cette semaine, 4 ans après les attentats du 13 novembre 2015, France Inter mène une enquête signée Sarah Guibaudot. Ce soir, les épisodes 3 et 4 de sa série 13 novembre, l'enquête, un gros plan sur les trois futurs terroristes du Bataclan. Le NRV, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Donc Benoît l'a dit, hein, demain sortie en salle de votre film Ludovic Canté, j'aimerais qu'il reste quelque chose. On y suit le travail des bénévoles du Mémorial de la Shoah à Paris qui recueille les témoignages et collecte les archives personnelles des déportés et de leurs familles. Mais avant de parler du film, je voudrais qu'on revienne à Actualité Oblige sur ce qui s'est passé ce week-end et je fais référence à la photo prise dimanche lors de la marche contre l'islamophobie à Paris sur laquelle une petite fille arborait une étoile jaune et un croissant de lune sur la poitrine aux côtés d'Esther Benbassa, sénatrice Europe Écologie Les Verts de Paris. Comment chacun vous avez interprété cette posture, Annette Vieviorka?
Ah, vous me mettez ici dans le rôle obligé, donc je devrais vous dire que c'est une comparaison qui est scandaleuse, et c'est ce que je vais dire d'ailleurs, parce que il n'y a aucun point commun entre la situation qui est faite aujourd'hui à ceux qu'on appelle d'un mot valise qui n'a pas de sens, les musulmans, parce que musulman c'est une religion, il y a même des juifs convertis à l'islam, et ce qui a été le sort des enfants juifs qui ont, à partir de 6 ans, porté l'étoile jaune et qui ont été conduits dans les chambres à gaz et qui ont été assassinés. Mais il y a une sorte de volonté, puisque c'est considéré comme étant le malheur absolu, de que tout le monde ait ce même malheur absolu. Et je crois qu'il y avait aussi ce slogan « l'islamophobie tue ». Or, si on regarde un peu la situation mondiale, du côté de Bagdad, du côté d'ailleurs, on s'aperçoit que c'est plutôt l'islam qui tue, davantage que l'islamophobie d'un point de vue mondial.
Haïm Korsia, le grand rabbin de France, a déclaré qu'il s'agissait là de banaliser la Shoah. Vous êtes d'accord avec ce point de vue, Pierre Birnbaum?
Écoutez, je ne saurais dire autre chose que ce que vient d'exposer très vite Annette. C'est proprement scandaleux et c'est effectivement une banalisation, mais tellement choquante qu'on a vraiment on a envie de se taire, tellement on est épouvanté par une telle assimilation. C'est purement provocateur, enfin c'est une manière de faire parler de soi, mais qui est terriblement agressif par rapport à ce qu'a été le destin juif. Enfin.
Non, pas de, vous ne voulez pas intervenir sur ce sujet.
Je ne crois pas
Cécile Fontaine.
En mesure de dire quelque chose de plus intéressant que ce que vient de dire Agnès Vieviorka.
Ludovic Canté.
Bah oui, c'est du grand n'importe quoi, surtout que généralement ce sont des gens qui disent pas d'amalgame, mais là on a un bon exemple d'amalgame. Et c'est pathétique, quoi. Si c'est défendre l'islam, c'est ça. Au secours, quoi.
Oui,
Paul Schaffer.
Je voudrais ajouter peut-être à la mémoire de Simone Veil, qui m'avait dit un jour qu'on l'a approchée pour demander d'assimiler Hiroshima à la Shoah. Elle dit que c'est les dangers qui nous attendent. En fait, cette recherche d'amalgame, de vouloir comparer ce qui est incomparable. Et ma foi, je pense être bien placé pour expliquer, pour dire que ce que voulait dire cette manifestation l'autre jour n'a absolument ni de près ni de loin quoi que ce soit à faire avec la Shoah.
Je crois que tout le monde est d'accord donc autour de cette table. Demain, Ludovic Conté, vous sortez votre documentaire. J'aimerais qu'il reste quelque chose. On écoute tout de suite la bande-annonce.
Bonjour, je vous appelle du mémorial de la Shoah à Paris. Et je vous appelle pour vous informer que nous allons commémorer le convoi numéro 67 dans lequel il y avait votre papa, maman. Et vous n'avez pas de documents sur la Pologne de Benjamin?
Là, peut-être.
Oui, voilà, c'est 39. Mon frère, moi, et puis deux camarades qui ont été déportés.
Et ça, c'est des documents que vous confiez au mémorial ou on les reproduit et on vous les rend?
Je sais pas. J'ai envie que ça reste... Enfin, qu'il reste quelque chose. Puisque de la famille, maintenant, il ne reste plus que moi.
Ludovic Conté, on a bien compris avec cette bande-annonce que vous filmez le travail des bénévoles du mémorial de la Shoah à Paris, qui recueille donc les témoignages et qui collecte les archives des familles des déportés et même des déportés eux-mêmes. Vous dites que l'élément déclencheur, c'est mars-mai 2012, je vous cite, c'est la fin du sarkozysme, la victoire de François Hollande, l'affaire Merah, massacre prémonitoire de ce qu'il est à devenir plus tard avec Charlie Hebdo et l'hypercachère, le Bataclan, Nice, etc. et que vous appelez le monde d'avant, c'est-à-dire, plus précisément.
C'est-à-dire que quand j'ai commencé à avoir cette idée de film, c'est tout simplement aussi parce que j'ai travaillé au mémorial de la Shoah, ouais, en tant que documentaliste sur une expo qui s'appelait Les enfants dans la Shoah. Et c'est là que j'ai découvert l'existence de cette permanence photo. Et quand j'ai vu ce qui se passait au sein de cette permanence photo, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. C'était pas possible, quoi. C'était passionnant à voir comment l'archive privée, on va dire, ou personnelle, arrive dans le domaine institutionnel. Et je me suis dit que c'était une autre façon, dans les années 2010, de parler de la Shoah, trouver un autre angle, un autre point de vue que ce qui avait été fait. Voilà, en essayant d'être un peu plus singulier. Et je trouvais que c'était intéressant de filmer le travail des bénévoles, des petites mains, des gens qui sont rarement crédités au générique et qui font un travail colossal pour sauvegarder toute cette
mémoire.
Qui
sont ces bénévoles d'ailleurs? Quel est leur profil?
Souvent, ce sont des gens qui ont été aussi des enfants cachés, ouais, et qui ont vécu de plein fouet la Shoah.
Cécile Fontaine, vous confirmez, c'est ça, hein, c'est véritablement
oui,
ça.
Oui, des enfants de déportés, des enfants de survivants, des enfants cachés, et puis aujourd'hui des enfants d'enfants cachés, parce que les générations qui suivent continuent à s'intéresser vraiment à ces documents. Oui.
Annette Dvorka, comment vous regardez justement donc ce
écoutez,
film?
Chaque génération redécouvre quelque chose. Je fais partie maintenant des vétérans. Moi, j'ai fréquenté, quand j'écrivais ma thèse il y a quelques décennies, ce qu'on appelait le Centre de documentation juive contemporaine, qui aujourd'hui est intégré dans le mémorial de la Shoah, et des femmes merveilleuses, je pense à Madame Alperine par exemple, avaient commencé ce travail de collecte. Et je pense que effectivement garder les traces, c'est très important. Mais quand on lit le livre de Pierre Birnbaum, on s'aperçoit aussi que les traces de ces histoires de famille, en l'occurrence son histoire et celle de sa famille, elles sont aussi conservées dans beaucoup de lieux d'archives, notamment dans les archives publiques, dont une partie est microfilmée et se trouve aussi au mémorial de la Shoah. Donc, je crois que cette idée de garder la trace pour qu'il reste quelque chose, c'est une vieille idée qui est revisitée chaque fois qu'une personne redécouvre à son tour la force de ses objets ou de ses écrits.
Sauf que sur un angle historique, qu'est-ce qu'on apprend de plus avec ces nouveaux documents que collecte le mémorial régulièrement? Est-ce qu'on apprend des choses supplémentaires? Est-ce que ça vient éclairer des choses que l'on ne savait pas? Ou est-ce que ça vient juste rapporter à nouveau l'histoire pour la nouvelle génération, comme vous dites?
Écoutez, le futur du passé nous le dira. Pour le moment, ce sont des documents qui ont une valeur affective. Des objets, bon, le monsieur qui a les objets qui ont été fabriqués par son père, le camp de Pithiviers.
C'est vers la fin du film.
C'est la fin du film. C'est il y a une grande puissance émotive. Maintenant,
des objets,
la valeur historique,
il y a un bateau.
Tout dépend. La Shoah, c'est un événement très paradoxal, puisque c'est un événement qui ne devait pas laisser de traces. Et c'est un événement qui, depuis les 30 dernières années, a été l'objet de multiples collectes. Collectes de papier, comme le font merveilleusement bien les bénévoles du mémorial. Collectes de témoignages. Témoignages écrits. Paul Schaffer en est un exemple, mais Paul Schaffer a dû aussi donner son témoignage oral aux différentes collègues, peut-être les Fortunov Video Archives de l'université Yale, peut-être Spielberg. Donc, on est devant un événement où on ne manque absolument pas de documentation. Ce qu'il faut, c'est trouver ceux qui sont capables de faire vivre cette documentation et peut-être aussi des historiens qui s'en serviront comme on se sert des archives.
Paul Schaffer, est-ce que vous avez déposé justement des documents ou des objets au mémorial de la Shoah?
J'ai déposé mes archives. Je ne connais pas leur importance. Pour moi, c'est important. Est-ce important pour ceux qui éventuellement s'en saisiront pour en parler, pour les citer comme exemple de ce qui nous est arrivé et qui est en quelque sorte inoubliable et dont il faut absolument garder trace parce que c'est un événement qui est majeur. Malheureusement, nous avons pensé en faisant le travail de transmission, comme je l'ai fait moi, d'autres l'ont fait également, car chacun a une histoire différente dans la globalité de l'histoire. Eh bien, nous espérions, bien sûr, que notre histoire, notre vécu et la Shoah en général servira de bouclier à la non-répétition d'un événement tel que, quelle que soit la partie visée, que ce soit des musulmans, que ce soit des juifs, que ce soit des Kurdes ou autres, eh bien, il aurait fallu que ça serve de bouclier. Malheureusement, j'arrive à 40 années d'exercice de cette nature et je m'aperçois que finalement, notre vécu, notre histoire ne sert pas à grand-chose, tout au moins ne sert pas les grands publics ou les dirigeants de nos pays.
Vous partagez ce constat amer, Pierre Bienbaum ?
Oui, je crois, oui. Je voudrais revenir sur le film quand même. C'est un film émouvant. On voit des hommes, on voit des femmes au destin tragique. Enfin,
De générations différentes.
De générations différentes. Je me souviens de cet homme, par exemple, qui n'est pas parti et qui devait partir. Il fallait choisir 5 personnes sur 10 et qui tremble en parlant. Enfin, on voit des. Évidemment, ce sont des choses que l'on savait, mais on est très ému par ces personnages. Et même on est ému par cette femme, par exemple, qui vient apporter ses documents alors que elle ne sait pas ce qu'elle a. Finalement, elle se décide à le donner. Elle voit pas. C'est un film intéressant et on est aussi très ému par le dévouement des personnes qui font le travail et qui passent leur vie ou leur soirée, en tout cas, à solliciter des témoignages, la colère de l'un d'entre eux lorsque la personne ne peut pas venir parce qu'elle est malade ou je ne sais pas trop quoi, elle a un rhume, il se met vraiment en colère, enfin il se dit, c'est émouvant, oui.
Vous-même, vous avez déposé des documents ?
Aucun, non, aucun.
Vous savez pourquoi ?
Écoutez, j'en ai peu, ceux que je possède, je les ai utilisés dans un livre, je peux éventuellement les déposer sans problème, bien sûr, oui.
Ce qui est intéressant, Ludovic Kanté, c'est que dans l'acte du don, finalement, ce que ça révèle, c'est ce qu'on en raconte derrière. Finalement, ce qui est le plus important, presque, c'est ce que l'on dit, plutôt que ce que l'on donne. C'est comme ça que vous l'avez perçu, en les filmant ?
Oui, non. Moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi de faire un portrait en creux des bénévoles du mémorial de la Shoah. Généralement, beaucoup de films, souvent, sont centrés sur les témoins. Et je trouvais qu'en élargissant le cadre, C'était une façon de faire un portrait des gens qui y travaillaient. Alors c'est aussi un film sur, je dis souvent, sur les gens qui parlent et sur les gens qui écoutent, ceux qui donnent et ceux qui reçoivent. C'était un peu le propos du film, quoi. C'est à faire un documentaire sur le document, en quelque sorte.
Piano mélancolique, voix spectrale pour l'artiste danoise Agnès Obel, hantée par la mémoire et le deuil sur France Inter. Island of Doom, signé Agnès Obel, qui sera notre invité live mercredi prochain. Non, mardi prochain, pas mercredi.
Rendez-vous.
Hitler, il était très très méchant avec Madame Kolinka.
France Inter.
Combien de temps êtes-vous resté dans le camp ?
Le camp le plus terrible, c'était Birkenau. Birkenau était un camp d'extermination. Qu'est-ce que ça veut dire, exterminer ? Vas-y. Eh bien voilà, c'est ça. Si vous aviez été juif, vous aviez moins de 15 ans, vous auriez tous été assassinés. Est-ce que vous réalisez ?
Le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
J'estime que si on ne veut pas que ça recommence, il faut que ça se sache de plus en plus.
Prendre la parole pour ne pas oublier la Shoah au moment où inexorablement les témoins et les survivants de cette période tragique de l'histoire disparaissent, eh bien c'est le sujet du nouveau rendez-vous ce soir. On en parle avec nos invités, le documentariste Ludovic Canté, la documentaliste du mémorial de la Shoah Cécile Fontaine, l'écrivain Paul Schaffer, les historiens Annette Ivorka et Pierre Birnbaum. Pierre Birnbaum, d'ailleurs, vous signez en cette rentrée la leçon de Vichy. Alors c'est étrange parce que vous n'appréciez pas l'ego-histoire, hein, comme vous l'écrivez dans le texte, mais vous plongez cette fois dedans. Le point de départ vient d'un entretien que vous accordez à Pierre Assouline et à qui vous parlez d'Omex. C'est un petit village des Hautes-Pyrénées où un couple de paysans vous cache pendant la guerre. Pourquoi entreprendre ce récit aujourd'hui, après avoir autant résisté ?
C'est une question à laquelle j'ai du mal à répondre. Je pense que c'est... J'ai été frappé par le fait qu'un de mes collègues, un très bon historien israélien, publie un livre il y a un an qui s'appelle « Les historiens et la Shoah », enfin « Historian and the Shoah », dans lequel il mentionne mon nom avec trois autres historiens. en soulignant le fait que ces personnes qui ont travaillé sur l'histoire juive n'ont jamais dit un mot de la Shoah et de cet événement-là.
Ouais.
Et donc ça m'a stupéfait, et en effet, en revenant sur mon travail, je me suis aperçu que, avant comme après, enfin, je n'ai jamais dit un mot de Vichy. Donc il y avait là un silence de ma part sur ma propre vie, et je me suis interrogé donc sur mon propre parcours universitaire, enfin, et pour quelle raison j'ai eu cette amnésie ou ce refus ou cette impossibilité de traiter de cette période de ma vie. Et la rencontre avec Assouline a déclenché ce besoin, je pense, d'aller y voir de plus près. Et ce livre a un intérêt, c'est justement, peut-être, je pense qu'aucun historien, Annette me confirmera ou me démentira, je pense qu'aucun historien dans le monde n'a entrepris ce travail, c'est-à-dire sur soi-même.
Exactement, ouais.
Je pense que je n'en connais pas un seul, et ça n'est pas de l'égo-histoire, c'est-à-dire que l'égo-histoire, on prend son stylo, puis on raconte sa vie. Là, je me suis voulu historien de moi-même. Et donc, c'est un peu différent, et c'est quelque chose d'un petit peu spécifique, je pense. Et en même temps, c'est très troublant, parce que à partir du moment où on suit la démarche rigoureuse d'un historien, c'est-à-dire on se base sur des archives.
Ce que vous faites.
Ce que je fais. La première fois que vous trouvez votre nom dans les papiers du commissariat général de questions juives, dans les rapports du préfet, on en perd sa chic. Enfin, on est d'un seul coup. C'est pas un bonhomme au XVIIIe siècle, mais c'est vous-même. Donc il y a là un choc, une sorte d'appréhension, de retour sur soi-même, qui mène aussi à une sorte de presque de psychanalyse personnelle, enfin de retour sur soi-même, et qui permet au fond de peut-être de boucler une vie. C'est un peu un livre testament, puisqu'à partir de ce livre-là, c'est un retour sur moi-même, et puis ça pose la question cruciale dans ce livre, enfin pour quelle raison ce silence, et pour quelle raison un silence sur un État dont je me suis fait le théoricien très laudateur, l'État à la française, qui a voulu me tuer. Donc, comment est-ce que j'ai pu ignorer un État qui a voulu me tuer en devenant le laudateur de l'État à la française? Donc, il y a là un paradoxe qui m'a saisi d'horreur. Et c'était un vrai problème, parce que soit il fallait abandonner la théorie de l'État, et donc tout mon travail intellectuel, soit il fallait trouver une solution pour me réconcilier avec ma théorie et Vichy. Alors, j'espère y être parvenu, chemin faisant, précisément en montrant que l'État de Vichy n'est plus un État, parce que, au fond, les préfets, les hauts fonctionnaires sont éloignés des valeurs d'un État fort, du rationalisme, de l'universalisme, de la méritocratie, et que, par exemple, cette structure non plus étatique, mais cette structure ad hoc, qui est prise en main par des institutions créées de manière tout à fait arbitraire, comme le commissariat général aux questions juives, ça rappelle vraiment l'hitlérisme, c'est-à-dire un contre-État. C'est-à-dire qu'on a d'un seul coup une structure qui n'a aucun rapport avec l'État et à laquelle obéissent mes grands conseillers d'État. C'est complètement vertigineux. Je me suis fait le chantre de la haute fonction publique pendant 10 ou 20 livres, et d'un seul coup je me rends compte que mes hauts fonctionnaires sortis de la méritocratie républicaine obéissent au doigt et à l'œil. Les préfets, à partir d'archives, je peux le montrer, vous voyez, obéissent au doigt et à l'œil à des bouchers, des journalistes, des salopards, qui n'ont aucune formation universitaire, étatique, et qui... Donc c'est un peu ce qui s'est passé en Allemagne, où effectivement l'État prussien est détruit, et il est pris en charge par des fous, des dangereux, des bouchers, n'importe qui.
Anne Dvorka, est-ce que c'est vraiment le seul historien à se faire l'historien de sa propre histoire?
Jamais envisager cela.
Eh oui, et c'est pourtant ça tout l'enjeu du livre.
Mais quand on regarde ce qu'ont fait les historiens, je pense... peut-être au plus grand d'entre nous sur la Shoah, qui est Saul Friedlander. Ils écrivent des souvenirs, merveilleux souvenirs de Saul Friedlander sous le titre « Quand vient le souvenir ». Et ils ne font pas du tout la démarche qu'ils font pour leur travail d'historien sur eux-mêmes, en allant aux archives. Et je me souviens de l'émotion de Friedlander, quand tout à fait par hasard... parce qu'il était dans la commission suisse qui examinait la question des passages en Suisse.
Il a trouvé les papiers.
Il trouve les papiers, mais il trouve les papiers qui montrent que, en fait, ses parents ont été refoulés parce qu'il l'avait caché, voulant le sauver, ils se sont en fait perdus, puisque la Suisse à cette époque-là acceptait les couples qui avaient un enfant. Et il trouve ses archives tout à fait par hasard. Donc il n'a pas du tout la démarche qui est celle de Pierre, Birnbaum, qui est de se faire réellement l'historien et de mêler ce qui est de l'ordre de l'émotion, c'est-à-dire de ce que cette situation d'enfant caché pendant plus de 2 années a fait sur son psychisme, je ne sais pas si on peut dire comme ça.
Comment ça l'a fait, ce qu'il est, dont il s'est fait complice.
Mais aussi les archives, donc principalement celles du commissariat général aux questions juives,
et
les archives départementales, oui. Et son émotion à découvrir ces archives. C'est un très beau livre.
Oui, c'est un travail donc qui vient lier le travail de l'historien, le travail du témoignage, travail de témoignage qui est fait par beaucoup de témoins, dont vous, Paul Schaffer. On entendait Ginette Colinka à l'instant, mais vous aussi, vous avez rencontré de nombreux lycéens, de nombreux étudiants, vous leur avez parlé de votre histoire, et j'ai lu que c'était suite à ces échanges, donc d'abord l'oralité, que vous étiez ensuite parti pour écrire votre propre récit. Donc d'abord, ça a commencé par intervenir oralement pour écrire.
Le soleil voilé. Hein.
C'est le soleil voilé, votre livre.
C'est exact. Les enfants, les jeunes, précisément entre 13 et 14 ans, sont extrêmement sensibles et posent des questions multiples auxquelles parfois il est difficile de répondre, soit parce qu'ils sont trop jeunes, soit parce que ce sont des problèmes d'ordre philosophique qui ne sont pas à la portée de ces enfants-là, à cet âge-là tout au moins. Eh bien, c'est effectivement après un certain nombre de témoignages que j'ai effectués et des lettres que j'ai reçues des enfants et la demande qu'ils ont formulée à savoir si j'ai écrit mon histoire, je me suis mis à écrire alors que ce n'est pas mon moyen d'expression le plus facile, tout
c'était plus facile pour vous de témoigner, de parler que d'écrire?
Oui, bien sûr. Parce que écrire, ce sont des choses qui restent. Et là, il faut être extrêmement attentif aux mots qui ont une signification et ne pas utiliser n'importe lesquels pour s'exprimer. Alors, et j'ai donc fait mon guide, les fils rouges étaient évidemment celui de ne pas causer des dégâts auprès des jeunes qui pouvaient éventuellement mal interpréter tel ou tel fait qui se produit sur leur propre vie ou dans le cadre de leur propre vie. Et cela qui a fait que mon livre est relativement édulcoré et peut être mis dans les mains des enfants sans dégâts théoriquement possibles.
Ginette Colinka, qu'on entendait dans le générique tout à l'heure, déclarait récemment dans une interview à propos des conférences qu'elle donne un peu partout en France, qu'elle n'est qu'à moitié convaincue de l'intérêt de ces conférences. Annette Vivorka, qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, d'abord, je pense que Ginette Colinka est une personne merveilleuse, mais je pense que quand elle dit ça, elle rejoint ce que disait Paul Schaffer tout à l'heure.
C'est-à-dire que le bouclier, ça ne servira pas de bouclier.
C'est-à-dire qu'il y a eu cette idée que personnellement je n'ai jamais partagé, que en transmettant l'histoire ou la mémoire de la Shoah, on allait créer une sorte de vaccin et qu'on allait rendre la jeunesse, la jeunesse maintenant, il y a beaucoup de générations qui étaient jeunes, qui le sont moins maintenant, meilleures. Et aujourd'hui, on est bien obligé de constater que cette mémoire n'a empêché ni les massacres génocidaires ou génocides. C'est la stupeur de Raoul Hilberg de constater, Raoul Hilberg, le grand historien américain, de constater qu'au Rwanda, il y a eu aussi un génocide, 94, donc c'était une époque déjà où il y avait de la mémoire. Et quand on regarde le monde comme il va aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas de certitude des effets de cette parole. Et Ginette Colinka est une des rares à l'exprimer à la fois dans son livre et oralement. Parce que on n'a jamais envie de penser que l'utilité de ce que l'on fait est peut-être toute relative.
Peut-il poursuivre alors ce témoignage?
Bien sûr.
Et pour quelle raison?
Parce que chacun d'entre nous doit rester droit dans ses bottes et continuer à faire ce qu'il pense être juste sur Terre. Les historiens continuent à écrire de l'histoire, même s'ils doutent que l'histoire serve à quelque chose. Et les témoins à témoigner, les bénévoles à collecter, c'est ce qui est notre dignité d'être humain.
À la fois, ce que dit Ginette Colin-Caro aussi, c'est qu'elle, certes, il y a dans ce paradoxe, c'est que quand elle rencontre les jeunes, comme vous, Paul Schaffer, ça lui redonne toute l'énergie pour continuer à témoigner. Au mémorial de la Shoah, on le voit dans le film, il y a des groupes de jeunes qui viennent visiter les expositions. Quels sont justement leurs questionnements qui peuvent peut-être vous étonner? Parce qu'il y a un sondage, encore l'an dernier, qui expliquait que une personne sur 10 en France n'avait pas entendu parler.
Ça veut dire que 9 sur 10 ont entendu parler.
Oui.
Poser la question sur Verdun ou sur Robespierre,
là
vous verrez donc une sur 10, mais c'est un merveilleux.
Moi
je trouve que c'est merveilleux.
Ludovic Kanté.
Écoutez, moi je.
On voit des élèves dans votre film.
Alors, je suis en partie d'accord avec ce que vous dites, peut-être sur la vacuité de tout ça, mais en même temps, je crois beaucoup à l'éducation. J'y crois encore à l'éducation. Et je pense que si on veut éviter un peu, quand même, en tout cas, minimiser un peu la barbarie, ça passera forcément par l'éducation. Donc, même si c'est pas un vaccin, comme vous le dites, entre pas de vaccin, enfin, vous voyez, c'est un. On va peut-être pas empêcher d'autres génocides à se faire, mais au moins on peut quand même déjà. Je pense que c'est pas vain, quoi. Je pense pas que ce soit vain, si vain que ça.
Paul Schaffer, à quel moment dans votre parcours vous avez commencé à témoigner, à prendre la parole?
Lorsque est apparu les négationnismes, en particulier, et qui correspondait à la cessation de mon activité professionnelle. Donc, je me trouvais plus disponible, et à partir de là, dès les premiers témoignages, j'ai ressenti à la fois le besoin de poursuivre et la demande, car il y a objectivement de la part des enfants une telle incompréhension qu'ils souhaitent savoir un peu plus sur les détails des choses. Et c'est donc là que ça m'a paru nécessaire d'intervenir et de consacrer beaucoup de mon temps à la transmission. Ce que je voudrais dire à l'orateur qui m'a précédé tout à l'heure, eh bien, ce n'est pas une question d'éducation. Je pense que c'est surtout une question de culture. Ce qui manque dramatiquement, en fait, c'est la culture ou l'absence de culture dont sont victimes aujourd'hui les jeunes, quel que soit leur niveau, quelles que soient leurs études. Cet manque de culture générale, historique, fait qu'il y a là un vide à combler. Voilà ce qui m'a guidé dans mon choix.
Je dois courir, mais je ne sais qui ni quoi. Je cours après.
Odessa. Odyssée.
Je sais qu'il y a des choses à fuir. Il y a 100 000 regards à éviter.
Odessa. Odyssée.
Je reviendrai conquérir lorsqu'ici tout sera droit et redressé.
Odessa. Odyssée.
Je pars. Crois-moi, je ne fais vraiment pas exprès.
Odyssée.
j'ai peur que de moi t'en laisser. Même si tout doit disparaître, promets-moi de ne rien effacer.
Odessa, Odyssée, le récit familial de Kerenan, programmation épique pour Jean-Baptiste Audibert.
On doit tout sa vie à quelqu'un et souvent à plusieurs personnes. Hein. Et puis, il y a le hasard. Pourquoi que le sous-officier allemand qui a vérifié mes papiers à Lyon-Perrache n'a pas posé de questions? S'il posait une question, on était foutus, j'étais trahi par la question. Il n'a pas posé de questions. Il a regardé les papiers et est parti. Je le ressens encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y avait dans sa tête? Je sais pas. Et puis alors, il y a la chance. Hein, j'ai eu toutes les chances et mon frère aucune.
Le nouveau rendez-vous sur France Inter.
Raconter et dire la Shoah pour ne pas l'oublier, c'est le sujet du NRV ce soir, en l'occasion de la sortie de votre film documentaire Ludovic Canté, j'aimerais qu'il reste quelque chose, on vient d'entendre un extrait. À vos côtés, Cécile Fontaine du Mémorial de la Shoah, l'écrivain Paul Schaffer et les historiens Pierre Binbaum et Annette Vivorka. Une question se pose quand même avec la disparition des survivants et des témoins de ceux qui ont vécu la Shoah. Beaucoup craignent, je l'ai lu, la montée du négationnisme. Faut-il s'en inquiéter, Pierre Binbaum?
Faut-il s'en inquiéter, évidemment. Comment peut-on le combattre? C'est quasiment impossible.
Vous pensez qu'il y aura la montée du négationnisme?
On est en plein dedans depuis des années. Regardez Forisson sur la scène de Dieudonné. Tout le monde rigole. Il faut aller voir le succès de Dieudonné avec Forisson en province. Il joue à guichet fermé. Il faut s'inscrire 2-3 mois à l'avance pour assister en rigolant à ce spectacle. Moins maintenant, avec l'intervention de la justice. Mais vous avez 2000-3000 personnes qui hurlent de joie en évoquant ces questions totalement négationnistes. Comment lutter? Comment freiner tout cela? Un grand nombre d'historiens l'ont tenté. Il y a de très beaux livres qui ont été écrits là-dessus. Je suis toujours très sceptique sur la manière dont on peut lutter contre cela. Je pense que c'est comme pour l'antisémitisme qu'on a évoqué il y a un instant. C'est moins par l'éducation, c'est moins par les livres que par le raffermissement de la citoyenneté, de la société, de l'éducation, de l'État. Le fait que il y ait une éthique transmise par tout un ensemble d'institutions qui permettent précisément d'éviter les folies, enfin toute forme de négationnisme et de préjugés. Je pense que ça relève davantage de l'histoire de la société, je dirais, que de l'éducation ou de l'action d'écrivains ou d'historiens. Je pense que c'est la structure même de la société qui est en cause, et c'est à l'État à travers les différentes institutions par lesquelles l'État agit, de donner corps, de transmettre l'esprit de service public, l'esprit d'intérêt général. Et finalement, cette question de l'antisémitisme, toutes ces questions-là ne sont que secondaires par rapport à
le fait qu'il faut solidifier la citoyenneté, il faut solidifier le lien consubstantiel à l'espace public.
Mais c'est le passage du travail de mémoire au travail d'histoire. Ce travail d'histoire, s'il est bien enseigné et s'il est bien porté, peut éviter le négationnisme massif, on va dire, Annette Wieworka.
Je ne crois pas qu'il y ait comme ça une succession aussi rigoureuse, le travail de mémoire et après le travail d'histoire. Parce que les historiens, notamment ceux du Centre de documentation juive contemporaine, je pense à Léon Poliakov, ont commencé ce travail dès les années 50. Et on peut dire que depuis les années 80, il y a une bibliothèque de travaux historiques consacrés à tous les aspects de la Shoah. Je pense que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est un phénomène identique, qui est que, effectivement, les survivants disparaissent. On a quand même pleuré ces dernières années Simone Veil, Marceline Lorient-Evans, qui ont été vraiment des grands témoins, Ida Greenspan et beaucoup d'autres. Leur disparition est vécu de façon cruelle, bon, d'abord parce qu'on les a aimés, mais aussi parce qu'on a assigné à ces survivants le soin de dire l'histoire et de porter la mémoire. Mais on peut aussi voir dans la disparition quelque chose qui est naturel. Cela veut dire que l'événement s'éloigne dans le temps. L'aîné de mes petits-enfants, qui a 20 ans, a tous ses grands-parents nés après la Seconde Guerre mondiale. Et il est certain que l'éloignement dans le temps fait qu'il y a moins cette transmission intrafamiliale de la mémoire et des choses peut-être insensibles qu'on pourrait même pas dire, qui font que on a cette certitude que ça a eu lieu. Alors je dirais aussi que la révolution dans les médias, l'idée que il y a des faits alternatifs, la prolifération des fake news, dont finalement le négationnisme est quasi un modèle matriciel, ça aide pas, quoi.
Paul Schaeffer, vous ressentez vous aussi aujourd'hui la montée ou la vigueur d'un certain négationnisme ou de l'antisémitisme ?
Eh bien, les problèmes, c'est compliqué. Et c'est compliqué par le fait que Israël est devenu un acteur important et a provoqué évidemment un antisionisme assimilé à l'antisémitisme, ce qui crée une sorte de différence dans le langage et avec des justifications théoriquement justifiées. Car on voit la propagande, les désinformations qui ajoutent au négationnisme par le fait qu'on raconte n'importe quoi et d'une façon tendancieuse.
Ludovic Conté, on va juste finir en revenant sur votre film. Dans le documentaire, vous dites que le plus important, certes, c'est ce qu'on montre, mais c'est aussi le montage. Et je me suis demandé, à travers le montage, qu'est-ce que vous voulez véritablement raconter à travers ce film ? Donc je rappelle que vous filmez les échanges entre les survivants ou les familles de survivants et puis tout le personnel et les bénévoles du mémorial de la Shoah.
Je voulais faire un film avant tout en plan séquence pour la simple raison, c'est que je ne voulais pas couper les interlocuteurs, les transmissions. Et donc, il fallait aussi à peu près une bonne distance pour pas perturber le dispositif. Et donc, évidemment, je ne pouvais pas faire du champ contre champ comme on fait à la télé.
Ça serait trahir la réalité de l'échange, bien
exactement.
Sûr.
Exactement. Et donc, je me suis dit, je vais garder ce point de vue et dès que ça marche plus pour des raisons de rythme ou d'intérêt, je vais assumer les coupes. C'est-à-dire, je vais pas faire semblant d'un semblant de continuité. Je vais marquer les coupes, ce qui se fait.
Passage au noir.
Voilà. Et ça me permettait aussi d'illustrer l'idée suivante, qui était le trou de mémoire. Et c'est noir visuellement. Donne cette idée-là. Voilà. Donc ça fait un film parce que la mémoire est parcellaire et il y a des absences, des approximations. Et c'est une façon visuelle de traduire tout ça.
D'ailleurs, voilà. Comment on travaille le document entre la mémoire, les trous noirs et les documents que vous réceptionnez au Mémorial de la Shoah, Cécile Fontaine?
Alors, je vous disais tout à l'heure, on prend beaucoup de notes pendant que les personnes nous apportent les documents. On prend le récit historique de la famille, d'où elle vient, et ce qui lui est arrivé pendant la Shoah et puis après. Et puis aussi, on prend des notes sur chacun des documents qui nous est apporté. Qui est sur la photo, quand elle a été prise, à quel endroit. Aujourd'hui, il y a une urgence de le faire parce que la mémoire dans les familles, elle se perd. Les générations passent et on voit aujourd'hui arriver des gens avec des photos de famille dont ils ne savent plus qui est dessus, quand c'est. Et vraiment, et aussi on voit arriver des gens, il y a quelques années, les gens gardaient leurs originaux, on en faisait des copies, on numérisait tout. Sur place, on rendait les originaux.
La question des originaux, d'ailleurs, est travaillée dans le film. C'est très important, on le sent, pour les gens qui ne veulent pas se déposséder, justement. Oui.
Sauf qu'aujourd'hui, on reçoit de plus en plus d'originaux et on communique des copies. Parce que les personnes se disent, voilà, j'ai plusieurs enfants, plusieurs petits-enfants, tous ne sont pas intéressés. Qui va récupérer les documents? Qu'est-ce qui va se passer avec cette mémoire-là? Donc, ils nous laissent la charge de conserver les documents. On est évidemment au mémorial, on a des capacités de conservation qui sont pas possibles dans le cadre d'un foyer, dans une maison. Et puis on communique des copies numérisées et charge à ces gens-là de diffuser auprès de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Et puis on met en ligne. Et puis voilà, les gens, en cherchant un nom, peuvent trouver des photos de personnes de la famille éloignée. On peut reconstituer des familles. Des gens se retrouvent par ce biais-là, un en Israël, un en France. Voilà, ça, c'est ça la collecte. Il y a des bénévoles, il y a des salariés du mémorial qui reçoivent des gens, qui les écoutent, qui passent ce temps-là. Et puis on va en France, comme on le voit dans le film de Ludovic. On continue à faire ce travail-là. On était en Suisse en septembre. Voilà, c'est un travail urgent.
Le nouveau rendez-vous sur France Inter.
Toujours difficile, hein, sans transition, de passer à la musique en live, mais pas véritablement, au vu de ce que vous programmez ce soir, Marion Guilbeault.
Oui, Laurent, c'est mon challenge. Alors lui, il est sur nos radars depuis plusieurs années, en tant que flûtiste, en tant que producteur, qu'arrangeur. Jidru, c'est son nom. Il a joué avec Magic Malik, avec Julien Doureau, avec Dr. L, Tony Allen, Thomas de Pourquerie. C'est vraiment un représentant de ce jazz moderne, hybride, qui ne craint pas et qui ne perd rien à se frotter à la pop, à l'électro ou à l'art contemporain. Alors Jidru a d'abord animé plusieurs collectifs musicaux, comme G-Mob, comme Shop, avant de signer sa première œuvre solo, et c'est un western. Alors c'est un titre à prendre au sens de western comme épopée collective, individuelle, comme combat contre nos propres démons, et aussi comme exploration de nouveaux territoires musicaux, ceci. Alors Jidru est pour autant sur le sentier de la paix, je vous rassure, il est toujours accompagné par sa complice Sandra Nkake, présente ici ce soir, et ces deux-là partagent le même tropisme, celui du souffle, de la respiration. Un chanteur, un flûtiste, ça paraît assez évident. Et cette obsession donne un groove, une vibration particulière à leur musique. Alors il y a 10 titres sur ce western hypnotique, épuré, expressif, onirique. Et Jidru, bonsoir. Ce western que vous avez choisi d'enregistrer en prise directe, est-ce que c'était pour préserver ce fameux souffle?
Oui, complètement. On a décidé de travailler sur le souffle dans toutes ses formes. Le souffle, c'est ce qui bave de l'ampli quand on le laisse brancher et qu'on met le micro devant. Et ce qui nous intéressait avant tout, c'était le souffle épique du western, le fait que ce genre prenne toujours position, emmène le spectateur vers une thèse. Donc je pense qu'on est quelque part un petit peu raccord avec le thème de l'émission, c'est-à-dire qu'il y a toujours une histoire qui a un sens et qui propose quelque chose au spectateur, qui donc les éléments sont choisis pour emmener vers plus ou moins une thèse réelle ou complètement fictive. On n'est évidemment pas toujours d'accord avec ce qui est dit dans le western, mais on s'en est servi pour écrire des morceaux et pour retransmettre ce souffle épique.
Et ben on va vous écouter tout de suite maintenant dans le NRV, Jidru.
Thank you.
life to start again. It's always on your mind. And you talk, you dance, you walk, you move. And you talk, you dance, you walk, you move. Your body is high and sour and down. It's always on your mind.
Ah oui, magnifique, Jidru. C'était Always on Your Mind, c'est extrait de Western, son nouvel album qui vient de sortir. Il sera en concert au studio de l'Ermitage à Paris le 19 novembre, en tournée dès le mois de mars en France. Il y a plusieurs dates à retrouver sur notre site. Il était à la flûte et à la voix, Sandra Nkake à la voix également. David Monet au clavier, Mathieu Penaud à la batterie, bravo messieurs. Et la prise de son était assurée ce soir par Guillaume Roux et Charles Pellabon. Merci d'être passé par le nouveau rendez-vous.
Et merci à tous nos invités. Merci Cécile Fontaine, Paul Schaffer, je rappelle votre récit, Le Soleil Voilé aux éditions Société des Écrivains. Et je signale qu'on pourra vous retrouver à partir du 20 novembre dans le très beau livre de David Teboul, L'Aube à Birkenau. Vous échangez avec Simone Veil. Ludovic Canté, J'aimerais qu'il reste quelque chose, ça sort demain en salle. Pierre Birnbaum, La leçon de Vichy, votre auto-analyse est publiée aux éditions du Seuil. Et Annette Duvorka, je rappelle le livre, Les Polonais et la Shoah, une nouvelle école historique, c'est au CNRS édition. Et bien sûr, la réédition aussi de Ils étaient juifs, résistants et communistes chez De Noël. Ça, c'était le NRV, première partie. On va se retrouver dans 15 minutes pour le NRV de la suite, France Inter Plus. Mais demain, quoi qu'est-ce ?
On n'est jamais tout à fait le même. Enfin, on n'est jamais tout à fait un autre non plus.
Mais qui êtes-vous, Emmanuel Macron ? Ce sera le sujet de demain. En live, Marion.
Eh bien, on a rendez-vous avec les chansons d'une inconnue qui porte bien son nom, Sabine Appart.
Ah oui, c'est parfait. Très bien. Le NRV, c'est Marion Lelay à la réalisation, programmation, préparation, Virginie Rouzic, Clémence Diligent et Benoît Lagan.
Rendez-vous.